Bonsoir, ouvrons le temps du débat consacré ce soir à la pauvreté. Et si la deuxième vague n'était pas sanitaire, mais sociale? Alors qu'on parle beaucoup ces jours-ci des nouvelles mesures plus strictes qui devraient frapper différentes métropoles face à la flambée des cas de Covid-19 et des admissions en réanimation, le Secours populaire a tiré cette semaine la sonnette d'alarme et forcé le gouvernement à se saisir d'une autre question, corollaire, celle de la pauvreté. Dans son baromètre annuel réalisé avec Ipsos, l'association révèle en effet que pendant les deux mois de confinement, 1 270 000 personnes se sont rendues dans l'une de ces permanences d'accueil, ils étaient 3 300 000 sur toute l'année 2019. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 45% des personnes qui ont sollicité l'aide du Secours populaire étaient jusque-là inconnues de l'association, un Français sur trois déclare avoir perdu des revenus à cause du coronavirus, 16% de manière importante. Or, dans ces 16%, ce sont principalement ceux qui étaient déjà les plus précaires qui sont touchés. Il faut ajouter à ce sombre tableau la crainte liée au retard accumulé avec la déscolarisation des enfants et les 900 000 chômeurs supplémentaires attendus par l'UNEDIC en 2020. Le Premier ministre Jean Castex a reçu hier les associations à Matignon et s'est dit prêt à de nouveaux gestes, à une amplification de la stratégie de lutte contre la pauvreté mise en place il y a tout juste 2 ans, en septembre 2018. Il faut dire que les réponses apportées au sujet de la paupérisation dans le plan de relance comme dans le projet de loi de finances actuellement en discussion ont été largement considérées comme insuffisantes, d'où cette question se donne-t-on vraiment les moyens de lutter contre la pauvreté? À écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Nous sommes en guerre.
Bah, vu la situation, on a des fins de mois super difficiles et ça nous aide beaucoup.
On est vraiment content d'être là, de pouvoir toucher un peu de nourriture gratuitement. Quoi.
L'État paiera.
C'était très difficile financièrement. J'ai dû arrêter mon travail à mi-temps parce que tout était à l'arrêt.
L'État paiera.
On reçoit toujours des familles monoparentales, des personnes sans domicile fixe. Et on reçoit aussi maintenant des personnes qui nous sollicitent, qui étaient auto-entrepreneurs avant le confinement ou qui venaient de signer un contrat. Et par la force des choses, ça a été mis à mal par la situation sanitaire.
La politique de chômage partiel qui a été mise en place pour l'instant, je pense, est très insuffisante parce qu'on oublie beaucoup qu'on a énormément de travailleurs qui n'en bénéficient pas.
Le confinement se justifiait par l'urgence. Mais son coût social, son coût humain, son coût économique est colossal.
Vous aurez reconnu dans ce montage préparé par Vanessa Nadjar le président, évidemment, de la République, Emmanuel Macron. Il y a aussi un étudiant étranger en France, un reportage sur la pauvreté en Gironde, l'économiste Thomas Piketty, et enfin, le Premier ministre Édouard Philippe. Bonsoir Christophe Robert.
Bonsoir.
Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. En tant que tel, vous étiez hier matin à Matignon et vous avez rencontré Jean Castex. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis évidemment, la Fondation Abbé Pierre qui fait un travail sur le mal-logement, mais plus largement sur les questions de pauvreté et de paupérisation. Avec nous ici aussi en studio à Paris, Denis Colombie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, enseignant de sciences économiques et sociales au lycée et vous avez publié cette année, c'était au début de l'année, Où va l'argent des pauvres, fantasmes politiques et réalités sociologiques aux éditions Payot. Et nous sommes en correspondance avec Julien Damon par téléphone. Bonsoir Julien Damon.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po, auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la pauvreté et la protection sociale. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Christophe Robert, pour une première question, puisque comme je le disais, vous étiez hier matin auprès du Premier ministre à Matignon avec d'autres associations pour évoquer cette question de la paupérisation et de l'explosion, ce qu'on a appelé l'explosion de la pauvreté après le confinement et à cause de cette crise sanitaire. Est-ce que vous êtes sorti plutôt satisfait? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable prise en compte aujourd'hui par le gouvernement de la situation?
Écoutez, en fait, le Premier ministre, donc nouveau Premier ministre, a souhaité nous entendre sur la situation de la pauvreté, sur la situation des plus fragiles, sur les risques de basculement d'un certain nombre de nos concitoyens du fait de la crise sanitaire, économique et désormais sociale. Ce qui nous pose un problème, parce que ça fait 2 ans que le plan pauvreté est lancé. Et il y avait une ambition énorme quand le président de la République s'est prononcé et a lancé cette stratégie pauvreté. Et ça fait 2 ans qu'on travaille beaucoup, que des choses sont faites, hein. Faut pas dire que rien n'est fait. Il y a des choses, on coche des cases. Il y a des éléments sur les petits déjeuners, dans les écoles. Il y a un accès favorisé à la question des crèches. Il y a, bon, bref, il y a eu des choses qui ont été faites, mais absolument pas en capacité de provoquer, je dis ça avant même la crise sanitaire, une limitation, ou plutôt éviter d'accélérer le creusement des inégalités, ou que les plus pauvres s'enfoncent. Donc le Premier ministre nous dit, écoutez, je voulais vous entendre et je vous donnerai des réponses dans 15 jours. Bon, on n'est pas à 15 jours près, sauf que, vous l'avez vu, les chiffres, alors la pauvreté c'est pas que monétaire, hein. Quelqu'un qui a 1000 euros et qui paye 800 euros de logement, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 1000 euros et qui paye 0 euros de logement. Donc, mais quand même, les indicateurs monétaires qu'il faut suivre dans le temps montrent que l'année 2018, il y a une augmentation de la pauvreté, il y a aussi un creusement des inégalités, et au fond, ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, c'est qu'il y a bien eu une redistribution. Pas mal de nos concitoyens, notamment après la crise du mouvement des Gilets jaunes. Mais en fait, ça a essentiellement touché des classes moyennes inférieures, des catégories modestes, mais les 5 à 7% les plus pauvres, eux, n'en ont pas vu la couleur. Donc il y a vraiment une question de fond sur quelle main tendue, quelle protection à l'égard de ceux qui sont en grande, grande précarité.
Oui, ça va être un des enjeux de cette émission, évidemment, de définir la pauvreté, de qui on parle. Il faudrait peut-être parler des pauvretés au pluriel. Julien Damon, ça vient d'être dit, il y a une stratégie de lutte contre la pauvreté qui a été mise en place en septembre, mi-septembre 2018, il y a tout juste 2 ans. Il y a un délégué, qui est maintenant une déléguée interministérielle, qui a été nommée pour coordonner cette action. Et pourtant, c'est vrai que même avant le coronavirus, ça vient d'être dit par Christophe Robert, on a eu du mal à passer véritablement, à faire un saut qualitatif dans la lutte contre la pauvreté. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment, vous, que la situation sanitaire, c'est une petite goutte qui vient aggraver une situation déjà grave, ou ça nous fait basculer malgré tout dans une autre situation vis-à-vis de la pauvreté?
Je dirais que la crise du coronavirus, c'est pas une petite goutte. La métaphore forte serait de dire c'est un raz-de-marée, mais c'est exact qu'il y a là une vague de problèmes qui affecte profondément la société française. Il faut dire une chose très importante, je trouve, c'est que les victimes sanitaires de ce Covid ou de la Covid, ce sont des personnes âgées, les victimes économiques, ce sont des jeunes. Alors, on peut se bagarrer sur les chiffres de la pauvreté, et puis il est important d'avoir, c'est vrai, des ordres de grandeur. Un point très important, c'est les transformations de la pauvreté. La pauvreté, historiquement, c'était des personnes âgées. Aujourd'hui, ce sont des jeunes. Et donc, le fait que la crise économique que nous commençons à vivre pèse d'abord sur les jeunes va encore augmenter le problème de la pauvreté juvénile. C'est la première chose à dire en réponse à votre question. Votre question contenait aussi une interrogation sur la stratégie pauvreté du gouvernement. Et la stratégie pauvreté du gouvernement, c'était une grande mobilisation, grande concertation avec les collectivités locales, les associations, les services de l'État, les caisses de sécurité sociale, sur 2 gros dossiers. Le premier, c'était de réformer le système des minima sociaux, c'est-à-dire les aides sociales pour les personnes les plus démunies. Et le deuxième, c'était de créer un service public de l'insertion, terme bureaucratique pour désigner le fait que l'on allait chercher à mieux accompagner les personnes en difficulté. Alors ce sont des chantiers qui ont leur ambition, leur légitimité, mais qui ont été complètement mis à l'arrêt. D'abord, qui avaient perdu du souffle avant la crise du coronavirus et qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Vous avez des grands chantiers de réforme sociale qui suscite des réactions variées, du type un régime universel de retraite, une réforme aussi du côté des prestations logement, alors Christophe Robert peut en dire un mot, une réforme aussi du côté de l'assurance chômage. Ces réformes-là ont été réenclenchées, c'est-à-dire qu'il a été dit par le gouvernement qu'elles allaient être mises à l'ordre du jour de la discussion, hein, et leur contenu va certainement être réformé. Mais pour ce qui concerne la stratégie de lutte contre la pauvreté, sinon dans le discours de politique générale du Premier ministre qui a dit que, eh bien, en fonction des événements, on densifiera cette stratégie, c'est vrai qu'il n'y a rien n'était dit Mais on ne peut pas dire non plus, troisième mot et après je me tais, qu'il n'a rien été fait. Puisqu'en réalité, on n'a jamais autant dépensé en matière de dépenses publiques, dont des dépenses absolument considérables de sauvegarde de l'emploi, avec le chômage partiel, avec également, pendant la période de confinement, des dépenses supplémentaires substantielles qui ont été faites pour l'hébergement, avec une augmentation substantielle de l'allocation de rentrée scolaire. Enfin, on peut en faire toute une liste, le gouvernement le ferait mieux que moi, mais je ne suis pas là pour le soutenir, simplement pour dire qu'en réalité, nous dépensons beaucoup, peut-être mal, ça c'est un gros sujet, mais en tout cas, on n'a jamais autant dépensé en matière sociale aujourd'hui.
On va revenir justement sur ces modalités, on va dire, techniques et ces mesures qui sont mises en place justement pour lutter contre la pauvreté, mais restons un tout petit peu, si vous le voulez bien, Denis Colombi, sur une tentative de définition, en tout cas de compréhension de ce dont on parle quand on parle de la pauvreté, et pour essayer de mesurer aussi dans quelle mesure on fait face avec la crise du coronavirus à de nouvelles formes de pauvreté. Qui est touché aujourd'hui? C'est évidemment difficile de le savoir au-delà de ce que remontent les associations. Il n'y a pas encore de données ni d'enquête évidemment sociologique ni même économique. Ce sera probablement dans les prochains chiffres de l'INSEE. Est-ce que cette définition de la pauvreté elle est possible selon vous? Vous avez semblé en douter dans votre livre Où va l'argent des pauvres? Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile finalement.
Alors c'est assez difficile de définir évidemment la pauvreté d'une façon qui convienne à tout le monde et qui soit utilisable à tous les contextes et pour tous les types de discours. Là on a quand on parle avec les associations d'une augmentation de la pauvreté, en fait, c'est une forme. Ils utilisent des indicateurs, par exemple, ça peut être les personnes en dessous de tel seuil de revenus, ça peut être les personnes qui ont recours à telle aide. Est-ce que ça veut dire qu'une personne, si on fixe, par exemple, le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, c'était le plus classique, quelqu'un qui gagnerait 1 euro de plus reste pauvre. Pourtant, il sera pas traité comme pauvre. Quelqu'un peut parfaitement être pauvre, être en situation de très difficulté, ça, pour autant, recourir aux associations. Ce qui est intéressant avec ces indicateurs, en fait, c'est de voir leur évolution, plus que leur niveau. Ils ne permettent pas de dire telle personne est pauvre ou n'est pas pauvre. Par contre, voir que le nombre de personnes qui s'adressent aux associations tête aux plus démunis augmente, voir que le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté augmente, ça veut bien dire qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre. Mais la pauvreté latine ne se résume pas simplement à un niveau monétaire. Il est possible d'avoir des revenus extrêmement faibles, ça pour autant être perçu comme pauvre. Je pense que c'est le cas t'as sur un certain nombre de domaines, comme des domaines artistiques, où on peut avoir des revenus extrêmement faibles. Pour autant, on ne sera pas dessiné socialement pauvre. Comme pauvre, et c'est pas juste une question de représentation ou de terme ou de mots, c'est que être reconnu comme pauvre, c'est pouvoir faire l'objet, et c'est faire l'objet effectivement de l'assistance publique telle qu'on l'a définie dans la société. Ça, c'était la réflexion que c'était déjà au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, pardon, le sociologue Jörg Simmel. Voir des personnes qui se reconnaissent comme pauvres, qui vont faire la démarche d'aller vers une association, au-delà simplement du nombre de personnes concernées, c'est aussi la preuve qu'il y a un problème important qui se joue.
Et d'ailleurs, Christophe Robert, ça a été souligné cette semaine, c'est l'un des éléments importants de nouveauté. Je l'ai dit, le Secours Populaire soulignait que 45% des personnes qui arrivaient étaient personnes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pousser la porte du Secours Populaire, aller voir la Fondation L'Abbé Pierre, c'est pas forcément évident, ça suppose de se reconnaître comme pauvre. Et donc, on a vu qu'un certain nombre de personnes, 45% encore une fois pour le Secours Populaire, bah, s'est retrouvé dans cette situation. C'est bien qu'il y a eu un impact important ces derniers mois du confinement notamment.
Oui, c'est toute la difficulté de l'échange que nous avons là. C'est-à-dire qu'il y a un problème structurel et il faut qu'on aborde cette question structurelle de creusement des inégalités, d'accroissement de la pauvreté. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis mars? Au fond, on a tout un pan de la population qui est en situation de pauvreté dure et puis une population qui est sur le fil. C'est-à-dire que sans être pauvre au sens monétaire, ou sans se sentir pauvre, ou sans faire appel à la solidarité des associations par exemple, ou des politiques publiques locales, des personnes se débrouillent tant bien que mal, dépensent 50% de leurs ressources pour se loger, et en fait, le moindre accroc, mais même une dépense, parce qu'il faut à un moment payer un plombier 500 euros parce qu'il y a une grosse fuite et il faut bien intervenir, vient bousculer le quotidien sur l'alimentaire, sur des besoins de première nécessité. Et c'est ce qui s'est passé en mars. Je vais vous le dire sincèrement, la Fondation Abbé Pierre, on intervient beaucoup sur le logement, l'hébergement, les personnes à la rue. Mais là, on a vu frapper à nos portes et on a vu des gens ça nous a fait peur. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui, parce qu'il y avait une réduction des maraudes, des distributions alimentaires, des épiceries sociales, dans les quartiers populaires, dans les arrondissements pauvres de nos métropoles, avoir faim. Donc, on voit bien à quel point elles sont sur le fil, ces personnes-là. Et c'est ce dont on parle à travers l'étude du Secours populaire. Et ça montre bien une extrême fragilité de tout un pan de la population. Donc, pauvreté, pas pauvreté, après, c'est une question de définition, vous l'avez dit en introduction. Mais au fond, il y a beaucoup de gens qui ont peur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se saignent, qui vivent tant bien que mal, qui font appel à la solidarité de proximité. Et en fait, on voit que ceux qui ne peuvent pas justement faire, je pense notamment aux jeunes, appel à la solidarité familiale, vont se retrouver bien seuls. D'où l'importance des filets de sécurité de la protection sociale pour tendre la main à ceux qui ne peuvent pas se faire, qui ne peuvent pas bénéficier d'une aide. De ce point de vue-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et Julien Damon a raison. Il y a eu un investissement en urgence des politiques publiques, à côté de celles des associations qui ont beaucoup donné aussi, pendant cette période. Et ça, c'est très satisfaisant. C'est-à-dire que nous, on a vécu une sorte de parenthèse heureuse dans ce grand malheur qui nous arrive à tous avec ce foutu virus. Et donc, tout d'un coup, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, les relations que nous avions tous les deux jours avec les pouvoirs publics, les ministres pour essayer de repérer les urgences et apporter des réponses concrètes, tout d'un coup, on a pu travailler convenablement. Chacun à sa place, en essayant d'apporter le maximum d'aide. Et ça, c'est satisfaisant. Sauf que c'est du one-shot. C'est pour un coup, c'est-à-dire qu'il y a eu une aide ponctuelle à un moment, elle est très importante, il y a eu des aides sans précédent sur l'hébergement d'urgence et des personnes qui sont encore aujourd'hui à l'hôtel parce qu'il a été dit qu'on n'allait pas laisser des personnes à la rue dans ces situations, on a prolongé la trêve des expulsions locatives, mais on a eu le sentiment, dans les échanges que nous avons et dans les politiques publiques qui sont menées depuis septembre, que le gouvernement se disait bah, finalement on a fait ce qu'il fallait. Oui, il y a eu un investissement très, 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 très important, sauf que le problème il est là, et j'allais dire le problème il est même devant nous. Je prends juste un exemple. Toutes les personnes qui ont continué à payer leur loyer et leurs charges. Toutes ces personnes qui ne vont pas bénéficier du chômage partiel. Parce que ce sont des activités qui ne sont pas couvertes par ces aides massives qui ont été mises sur la table par le gouvernement. Eh bien, elles ont utilisé leur fonds de tiroir. Elles ont fait appel à la solidarité pour essayer de continuer à payer leur loyer et leurs charges. Mais on le sait très bien, et on le voit tous les jours à la Fondation Abbé Pierre, ça tient qu'un temps. Donc là, il faut développer des nouveaux filets de sécurité et on pourra peut-être en parler dans les propositions.
Évidemment, Julien Damon, le problème est devant nous, dit Christophe Robert. Je le rappelais en introduction de cette émission, l'UNEDIC anticipe 900 000 chômeurs supplémentaires en 2020. Ça suppose évidemment de prendre la mesure et de mettre en place ces filets de sécurité Christophe Robert vient d'appeler de ses voeux.
Alors, Christophe Robert a raison. Tout à l'heure, il a dit Julien Damon a raison. Donc, on n'entre pas dans un débat très conflictuel.
Vous on voyez, va y venir, je pense, au moment où on va parler des mesures à prendre pour y remédier à tout ça.
Oh, c'est même pas certain. Mais enfin, on pourra trouver de quoi ne pas être parfaitement d'accord. En tout cas, il est tout à fait exact que le sujet est devant nous. C'est-à-dire que le système de protection sociale à la française est un bon amortisseur de crise. Les centaines de millions d'euros, alors il faut bien avoir ça à l'esprit, qui ont été investis sur la pauvreté, sur la lutte contre la pauvreté, doivent s'ajouter aux dizaines de milliards d'euros qui ont été investis pour le chômage partiel. Ceci a jusqu'ici limité puissamment les développements de la pauvreté. Alors, pendant la période de confinement, qui était une période singulière, vous aviez le fait que des personnes n'avaient plus accès aux services auxquels elles avaient habituellement accès. De surcroît, la pauvreté, c'est essentiellement un sujet de besoins. Il y a des besoins qui sont tout simplement couverts par les cantines scolaires. Quand les parents ne pouvaient plus avoir suffisamment de ressources pour payer le dîner, tout simplement parce qu'elles payaient aussi, parce que ses parents payaient aussi le déjeuner, ils avaient recours à l'aide alimentaire. C'est une période particulière. Je pense que le sujet structurel, le choc structurel, il va arriver avec les centaines de milliers de chômeurs, qui ne seront pas des chômeurs partiels, mais des chômeurs totaux, si on doit le dire ainsi, et qui vont plomber au-delà des coûts de l'UNEDIC, au-delà des coûts de globaux de la protection sociale, l'existence d'une grande partie de nos concitoyens. Alors, je termine sur un point important. La semaine prochaine, c'est les 75 ans de la sécurité sociale. Il se trouve que dans le domaine de la sécurité sociale, on aime bien les anniversaires. Une des ambitions de la sécurité sociale, c'est pas de lutter contre la pauvreté, c'était pas les termes qu'on employait à l'époque. C'était d'empêcher la hantise du lendemain. Et c'est ça le gros sujet que, à mon avis, les nouvelles dispositions complémentaires à celles qui existent déjà devraient viser.
Denis Colombier, je rebondis sur ce que vient de dire Julien Damon sur la hantise de l'avenir. Finalement, ce qu'on a vu apparaître avec la crise du coronavirus, mais même avant, on pourrait parler de la crise des gilets jaunes, c'est une forme de pauvreté qui était jusque-là niée. C'est-à-dire des gens qu'on ne voyait pas ou qu'on ne percevait pas comme pauvres, qui ne se percevaient même pas comme pauvres, mais qui se retrouvent dans cette situation décrite tout à l'heure par Christophe Robert, où le moindre pépin les fait basculer dans une autre situation. Et est-ce que c'est ça, vous avez analysé ça en tant que sociologue, justement, encore une fois, dans cette perception qu'on peut avoir de soi-même, que la société peut avoir de la pauvreté, l'émergence, là, on reconnaît une forme de pauvreté qui jusque-là était nié.
Alors là, on reconnaît ou on prête aussi à une fragilité d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de ménages. On se raconte que parfois, quelques dizaines seulement d'euros de différence entre deux familles, ça peut faire de grosses différences. J'avais une difficulté ou qu'il y avait un confinement comme ça, et certains vont tomber dans la pauvreté durement, alors qu'auparavant, ils ne se percevaient pas comme tels. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est que si on se pose la question, est-ce qu'on a fait suffisamment pour les pauvres, là, on est effectivement dans une période, ça toute... J'aime bien l'idée de paratesse heureuse pendant le confinement. On va accepter d'aider les pauvres, on va accepter de mettre de l'argent sur la table, de faire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, les personnes en question qu'on veut aider, on ne les perçoit pas vraiment comme pauvres. On se dit, bon, ce sont des victimes qui sont dans une situation particulière. On va les aider le temps de les remettre sur pied. Mais une fois que, à quelque sorte, on aura fait notre boulot, on aura mis cet argent sur la table et la crise sera passée, qu'en sera-t-il de ceux qui étaient déjà pauvres avant, qui veulent rester, dont les difficultés, ce seront peut-être encore plus graves, qu'en sera-t-il de ceux qui resteront en difficulté? On est toujours pied disposé, en fait, politiquement, je passe peu, collectivement, on est toujours pied disposé à aider les pauvres lorsqu'ils nous apparaissent comme état vertueux, comme si c'est pas leur faute, comme s'ils n'y sont pour rien. Et là, avec la crise du coronavirus, oui, on a déjà aussi, ah oui, bah c'est le coronavirus, c'est le coupable, mais les autres. Qu'en est-il des autres? Sont-ils vraiment si coupables que ça? Et est-ce qu'on a vraiment un plan, est-ce qu'on a vraiment un projet pour essayer de les faire sortir de la pauvreté? Effectivement, la sécurité sociale, c'est pas son objectif de lutter contre la pauvreté. C'est d'assurer une sécurité pour la simple de la population. Ça aide, ça fait évidemment beaucoup à la lutte contre la pauvreté, ça améliore la vie d'énormément de personnes, mais c'est pas son objectif premier. Qu'en est-il véritablement de la situation des plus pauvres, ce problème structurel, cette pauvreté structurelle qui reste, qui ne va pas forcément disparaître une fois que la crise sera passée.
Christophe Robert ?
Moi, je suis très sensible à ce que Denis Colombier vient d'évoquer parce que, au fond, le débat que nous avons eu avec le Premier ministre hier, et c'est celui que nous avons avec Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat et de tout le gouvernement, c'est que, bien sûr que nous sommes dans un pays qui a une protection sociale vraiment, vraiment intéressante, vraiment importante, il faut le reconnaître. Mais il y a beaucoup de monde qui passe à travers les mailles du filet ou qui vit mal. Et c'est ça qui doit occuper notre attention, en tout cas de notre point de vue. Et du coup, au-delà de la question de l'urgence ou de dire à maman, on va mettre le paquet, par exemple, du fait de la crise sanitaire, pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire que d'un coup, on va dire, on peut pas laisser les personnes à la rue. Mais est-ce qu'on peut laisser les personnes à la rue tout court? C'est la question que l'on peut se poser. Et du coup, je voudrais juste dire quand même qu'il y a des enjeux structurels sur cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de ce quinquennat? Vous avez eu, dans les choix socio-fiscaux, vous avez l'histoire de suppression de l'ISF, de mise en place du prélèvement forfaitaire unique, c'est 5 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Vous avez aussi un président de la République en campagne qui dit on va supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. C'est 10 milliards d'euros en moins par an dans les caisses de l'État.
Il a aussi dit plus un seul SDF dans la rue, il me semble.
Et alors, attendez. Et après avoir été élu, il dit finalement les 20%, les derniers 20% les plus riches ou les plus aisés, on va aussi leur supprimer la taxe d'habitation. Ce qu'ils n'ont pas demandé. D'accord? Et on va rajouter 8 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État pour la police, pour l'école, pour la protection sociale. Et simultanément, on coupe sur, par exemple, deux leviers majeurs de la solidarité dans le domaine du logement. On coupe sur les aides à la construction de logements sociaux. On coupe sur les aides personnelles au logement. Et ces coupes-là, en année pleine, c'est-à-dire en 2020, c'est moins de 3 milliards d'euros qui va servir la protection sociale dans le domaine du logement. Donc, derrière le débat un peu idéologique sur l'assistanat, est-ce que c'est des bons pauvres, est-ce qu'il faut vraiment les aider, est-ce qu'on ne va pas décourager la reprise à l'emploi, qui est un sujet qu'on a avec ce gouvernement, qu'on a eu avec d'autres aussi auparavant, mais qui est très fort en ce moment. Eh bien, d'ailleurs, il y a une forme de choix quand même politique à faire dans le pays. Entre dire, on n'aurait pas les sous d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, qui ont 0 € de ressources quand ils sont en rupture familiale, mais pendant ce temps-là, on supprime la taxe d'habitation. Donc, ce débat de société, sur où est-ce qu'on met l'argent pour lutter contre les inégalités ou tendre la main aux plus fragiles, quand même un jour il faut qu'on l'ait, dénué d'idéologie, un peu pragmatiquement.
Julien Damon, vous y croyez, vous, à la possibilité d'un débat sur la question dénué d'idéologie ?
Dénué d'idéologie, on peut partir des faits, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur l'ampleur des problèmes que l'on veut régler, et sur c'est vrai, cette distinction qui ne devrait pas faire deux catégories parfaitement distinctes de la population, mais entre un noyau dur de la pauvreté qu'il faut bien traiter, et puis tous ceux qui, en situation de fragilité, peuvent aujourd'hui basculer. Donc sur ces plans-là, on peut s'accorder. En revanche, après, il y a des idées très différentes sur la manière de relancer la pompe économique. On a des idées très différentes sur la légitimité de la limitation de telle ou telle fiscalité et à l'inverse de l'augmentation de telle ou telle prestation. Mais ce que je veux redire ici, c'est que la France n'a jamais autant dépensé qu'aujourd'hui et ça va continuer. Alors, il faut voir ce que l'on dépense, entrer précisément dans le détail de ce qui est soutenu ou non, mais nous sommes aujourd'hui à un niveau de dépenses publiques qui correspond à 65% du PIB. C'est absolument considérable. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, quand on se donne des grands chiffres, des millions, des milliards, des points de PIB, on perd rapidement l'interlocuteur. Mais le plan de relance, par exemple, qui vient d'être annoncé après avoir été repoussé plusieurs fois. Il est critiqué, je peux l'entendre, par le fait qu'il n'y a pas de grandes dépenses particulières sur le volet pauvreté. Il y a 100 milliards d'euros de plan de relance et tout à la fin du gros document, vous avez 200 millions, ce qui n'est pas rien en soi, qui sont affectés au soutien aux associations d'aide aux personnes vulnérables et au développement de l'hébergement d'urgence. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez le tiers de ce plan de relance qui est donc de 33 milliards d'euros, si vous voulez, qui est consacré à la sauvegarde de l'emploi, qui est consacré à une prime à l'embauche des jeunes, qui est consacré à un accompagnement renforcé pour les jeunes. Là, ces temps-ci, il y a un feu d'artifice de dépenses dans tous les coins, mais c'est vrai que se pose la question que je trouve seulement technique, mais pas seulement, j'entends que d'ailleurs c'est seulement, elle est capitale, la question technique de qu'est-ce qu'on fait pour les plus pauvres. Alors, tout à l'heure, Denis Colombie parlait de « Et les autres », Christophe Robert aurait pu réagir, car « Et les autres », c'est le titre d'un des magazines de la Fondation Abbé Pierre. C'est vrai que l'on fait beaucoup en réaction à la crise des Gilets jaunes, en réaction au problème d'une classe à moyenne inférieure qui n'est pas salariée ou qui n'est pas bien salariée, qui ne peut pas bénéficier du chômage partiel et qui se prend en pleine figure les conséquences de la crise économique, mais qui, en même temps, je ne sais pas si Denis Colombie sera d'accord, n'aime pas les pauvres. C'est-à-dire que vous avez dans la classe moyenne inférieure une partie de la population qui estime qu'elle n'est pas assez riche pour bénéficier des exemptions fiscales dont Christophe Robert a dit un mot, mais qu'elle n'est pas assez pauvre pour bénéficier des aides sociales qui, de leur point de vue, ne seraient pas légitimes. Donc il y a une bagarre. Alors une bagarre, je ne sais pas, pas entre nous trois ou nous quatre, pas dans la rue, mais il y a une bagarre idéologique et ensuite une bagarre technique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on aide les plus pauvres ou est-ce qu'on aide les fragiles, précaires ? Est-ce que l'on cherche à mieux prévenir la pauvreté ou est-ce que l'on cherche à traiter définitivement les cas de familles et d'individus qui sont depuis très longtemps à la rue ou au-delà d'être à la rue, dans des centres d'hébergement, par exemple ? Ça n'est pas la même chose. Et la réponse la plus insatisfaisante, c'est de dire on fait les deux de la même manière. Ça n'est pas vrai, ça.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
You at school. France Culture, vous écoutez le temps du débat du samedi. Notre question ce soir, se donne-t-on vraiment les moyens de lutter contre la pauvreté? Pour en discuter, nous sommes avec Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, spécialiste des questions de pauvreté et de protection sociale, et Denis Colombi, sociologue et enseignant de sciences économiques et sociales au lycée. Alors, il faut avancer un peu dans cette discussion, même si Julien Damon nous a ouvert une porte en nous proposant de réfléchir à savoir s'il faut choisir entre prévenir finalement immédiatement les effets de la pauvreté ou apporter un traitement structurel plus important, et en nous avertissant, il serait illusoire de penser, Denis Colombi, qu'on peut faire les deux en même temps. Votre sentiment à ce sujet ?
Et moi, ça me rappelle ce qu'on appelle sociologie de la pauvreté, le paradoxe de l'assista, c'est-à-dire qu'on se raconte que les pays, c'était ce que montrait un article assez vieux de la sociologie américaine, je ne sais plus les noms des auteurs à tête, mais il montrait que les pays qui réduisaient le mieux la pauvreté, les systèmes d'assista, d'assurance réduisaient le mieux la pauvreté, étaient paradoxalement les plus universels. C'est-à-dire pas ceux qui justement se centraient le plus sur la pauvreté, mais ceux qui proposaient une aide la plus vaste possible. L'explication récita justement le fait que la pauvreté reste toujours un problème politique, c'est-à-dire on accepte ou non de mener tes politiques et d'organiser la société pour la faire exister ou pour la faire disparaître. Et lorsque, en fait, on a un système qui est universel, qui concerne le plus grand nombre de personnes possible, chacun est incité, en fait, à faire en sorte que ce système soit le plus généreux possible, puisqu'il peut bénéficier. Il y a effectivement une partie de la population qui serait de la classe moyenne inférieure, qui a tendance à vouloir se distinguer des pauvres. Je passe à l'ouvrage de Benoît Cochard, « Ceux qui restent » sur des cantons ruraux, à Lorraine, si je ne me trompe pas.
Dans l'Est, en tout cas, oui.
Dans l'Est, voilà, tel Tratest, où il décrit des personnes qui ont des revenus tout à fait modestes et qui, en même temps, sont très soucieuses de ce qui fait racier des pauvres, qui ont une vue extrêmement négative de ceux qui sont en dessous d'eux.
Et de l'assistanat.
Parce que ils veulent montrer qu'ils s'en sortent. Et parce qu'il y a un sentiment d'injustice, t'as le fait que d'autres aient une aide et que eux n'y aient pas droit, parce qu'ils perçoivent que les autres, ceux qui reçoivent cette aide, sont en fait des paresseux qui ne travaillent pas assez. Une protection sociale ou un système de protection sociale ou d'assistance sociale qui s'adressera à tous et qui distribue à tous peut, en fait, de ce point de vue-là, paraître plus juste à chacun que un système qui se centrait seulement sur les pauvres.
Alors Christophe Robert, il y a les aides, mais il y a aussi les minima sociaux. Récemment, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a appelé à la hausse des minima sociaux en disant que il y avait là peut-être un levier, une solution. Est-ce que vous êtes sur la même ligne à la Fondation Abbé Pierre? C'est important, nécessaire, indispensable aujourd'hui. On voit qu'avec les 1219 euros net par mois de SMIC, on s'en sort pas.
Alors oui, bien sûr. La question du minima social, par exemple le RMI devenu le RSA, elle est posée aujourd'hui. Quand on crée le RMI en 1988-89, il représente le montant du RMI à peu près la moitié du SMIC. Il a décroché depuis. Donc il y a là des indicateurs qui nous montrent que dans la répartition des richesses, dans la solidarité, on a creusé finalement les écarts. Moi, je crois que par rapport à votre sujet des plus pauvres ou ceux qui ont peur de basculer, bien sûr que chacun a envie de se distancer et bien sûr que personne n'a envie de frapper à la porte d'une aide alimentaire. Mais la souffrance que nous on voit à la Fondation Abbé Pierre avec les personnes qu'on aide, grâce aux dons, parce qu'on n'a pas de subvention publique, c'est vraiment une souffrance courageuse. C'est-à-dire des gens qui souffrent en silence de ne pas pouvoir offrir des bonnes conditions à leurs enfants, des parents qui se privent de repas pour pouvoir donner à manger à leurs enfants. Donc, à un moment, j'aimerais bien aussi qu'on écoute ça. C'est-à-dire qu'on soit un peu attentif à ce que ça signifie tous les jours dans la parentalité, dans les rapports du couple, dans les rapports entre parents et enfants, dans les rapports sociaux dans leur ensemble. Et quand on parle du RSA, c'est 540 euros ou 480 euros selon les situations par rapport à l'aide au logement. Qui peut penser qu'on peut vivre convenablement avec un montant comme ça ? Et puis quand on parle des minima sociaux, il y a aussi des trous dans la protection sociale. Les jeunes de 18 à 25 ans, en rupture familiale, et on en accueille beaucoup dans nos lieux d'accueil pour les personnes sans domicile fixe, c'est 0 euro de ressources. parce qu'il y a ce débat justement de mais on va pas quand même commencer à la vie de nos jeunes dans notre société française à 20 ans en les aidant avec une aide minimale qui va les intégrer dans un système d'assistanat. C'est insupportable ce débat. Je vous le dis, c'est insupportable. Alors, quand on a discuté sur le revenu universel d'activité dans la stratégie pauvreté dont parlait Julien Damon avec les ministres, ils ont fini par nous dire « mais oui, vous avez raison, et bien sûr, on va lutter contre le non-recours aux aides sociales. Et il va falloir bien combler les trous, par exemple ce trou sur les moins de 25 ans. » Et puis, comme c'est un gros processus technique, ce RUA, on y a beaucoup travaillé, et puis que c'est compliqué, bah pour l'instant, c'est un stand-by, ce que disait Julien Damon tout à l'heure. Mais si on pouvait juste à un moment écouter les gens, écoutez les gens, donc là je parle de la grande précarité, ou écoutez ceux qui sont en milieu rural et qui disent, moi, avoir deux voitures pour aller bosser, ben c'est plus possible avec le prix du gasoil. Et puis qui souffrent de la précarité énergétique parce que leur logement, il est pourri en termes d'isolation thermique. Et du coup, au prix aujourd'hui des sources de chaleur, que ce soit le gaz, que ce soit le fuel, que ce soit autre chose, n'arrivent pas à se chauffer. Donc, on peut avoir une lecture macroéconomique. On peut effectivement dire qu'on a un bon système de protection sociale en France. Mais on doit aussi regarder ses souffrances au quotidien. Et c'est à partir de ça qu'on pourra se dire, bah ouais, bah là, il faut peut-être mettre le paquet sur la grande précarité. Mais peut-être que d'autres, parce qu'on est un couple avec deux enfants et on bosse à 1000 euros par mois, bah ça passe pas dans les conditions actuelles du marché du logement, dans les conditions actuelles du coût des charges. Et voilà. Et ça, j'allais dire, on sort d'une logique purement institutionnelle, d'une logique purement analytique ou d'une logique purement idéologique. Donc voilà, c'est la question qu'on peut poser aux Français. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on puisse avoir ce débat aujourd'hui dans notre pays.
Julien Damon, un mot quand même sur ce levier des minima sociaux. Quel est votre regard à vous sur cet outil qui est appelé par exemple, je le disais tout à l'heure, par Laurent Berger, pour parer à la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui?
Alors, les minima sociaux, c'est aujourd'hui une dizaine de prestations différentes que l'on a cherché à unifier. Pendant 2-3 ans, on a fait tourner plein d'ordinateurs et plein de tables rondes. On a fait tourner aussi avec plein de gens pour essayer d'améliorer tout cela. Je tiens à préciser que le SMIC qui était cité tout à l'heure ne relève absolument pas de la même logique. Le SMIC est un salaire auquel peut s'ajouter d'ailleurs une prime d'activité, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont dans des prestations aussi diverses que le minimum vieillesse, 900 euros par mois, l'allocation aux adultes handicapés, 900 euros par mois, ou le RSA, dont il a bien été dit qu'il tournait autour de 500 euros par mois. Je pense simplement que, admettons même que, au regard de la prodigalité, si j'ose dire, des finances publiques contemporaines, on augmentait de 100 euros le RSA du jour au lendemain, ça ne changerait pas véritablement la donne. Donc, moi, je pense que ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est sur les services. Je pense que si on devait décider des choses qui pourraient être décidées rapidement, c'est pour la gratuité totale de la cantine et pour tout le monde, selon l'argument du paradoxe de la redistribution qui était évoqué tout à l'heure par Denis Colombi, c'est cette idée selon laquelle les politiques sociales sont d'autant plus appréciées et soutenues que tout le monde en bénéficie. Donc, gratuité de la cantine, développement d'un service public de la petite enfance de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de la prise en charge de ses enfants et prise en charge de qualité. Sur les choses concrètes contemporaines, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas la gratuité des masques aujourd'hui à l'école, alors que le port du masque est obligatoire. Donc on invente des trucs hyper bureaucratiques pour que les personnes fragiles sanitairement puissent recevoir leur masque, pour que les personnes pauvres, pourquoi les seules personnes pauvres, c'est-à-dire en l'occurrence des bénéficiaires de certains minima sociaux, reçoivent les masques chez elles pour leurs enfants. Donc je suis pour un développement des services, c'est peut-être même plus coûteux que l'augmentation des minima sociaux. Mais comme Denis Colombi l'évoquait tout à l'heure, c'est pas parce que vous passez de 550 euros par mois à 600 euros par mois que véritablement ça change la donne. Donc, si je devais faire une priorité, parce que je préférerais que les gens gagnent 600 euros plutôt que 550 euros pour s'en sortir, moi je mettrais l'accent sur les services et sur, je l'évoquais, la gratuité de certains services dont la période du confinement a montré combien leur absence pesait sur les ressources des plus modestes, en l'occurrence, et sur tout le monde. Je prends l'exemple des cantines, ce qui a été montré pendant cette période, ce qui a été explosif aux yeux de ceux qui observaient les files d'attente devant les distributions alimentaires, c'est ces parents qui étaient obligés de venir chercher des aliments pour leurs enfants parce que précisément, ils ne pouvaient pas leur payer de repas. Donc si j'avais à choisir, voilà, sans baguette magique, si j'avais à soutenir une position dans ces débats, je dirais, il faut mettre le paquet sur les services.
Sur l'accompagnement, plutôt que sur le soutien financier. Denis Colombi, votre sentiment là-dessus ?
Alors moi, évidemment, bon, tout ce qui est proposé ici par Juliette Armanet, notamment, me sape très bien, la gratuité des chatines, les masques gratuits pour les écoliers. Voilà, je vois bien auprès de mes élèves, puisque je suis enseigné à lycée, que ça ne ferait pas vraiment pas de mal. Pour certains, c'est vraiment un peu ça, cette question, tu pries tes masques. Ceci dit, après, sur le fait que 100 euros de plus, ça ne fait pas de grosse différence, je passe au contraire. Est-ce que ça va permettre de sortir complètement de la pauvreté? Peut-être pas. Mais est-ce que ça va améliorer la vie déjà? Ça tout. J'ai essayé de compiler ta livre, pas mal de travaux qui montrent, en fait, qui t'a tout à montrer que l'une des façons les plus efficaces de réduire la pauvreté chez les personnes, c'est à de leur donner de l'argent. Ça peut s'appeler complètement évitable, mais en fait, beaucoup de cas, on se dit, ah non, mais il vaut mieux leur donner autre chose. Il vaut mieux leur donner une éducation. Il vaut mieux leur donner accès à tel ou tel service. Et c'est très bien, c'est très important qu'ils aient ça à tes services, qu'il y ait une éducation gratuite et des plein de choses comme ça. Mais parfois, leur donner de l'argent est la façon la plus efficace pour que eux puissent vivre mieux, à définir ça, quelles sont leurs priorités et qu'est-ce qui leur permet véritablement de se sentir mieux. Je pense à un certain nombre de travaux qui montrent que, quelques dizaines d'euros, ça fait une différence entre tes familles, c'est vrai, la sociologue Anna Perra-Héretia l'a montré, t'as ce très bel article, tu auras trois familles qui sont très très proches, mais il y en a une qui a quelques dizaines d'euros de plus de revenus et ils se retrouvent à tes situations de pauvreté, enfin, de rapport à la pauvreté très très différente. On passe d'une pauvreté endémique extrêmement forte à quelque chose, des chats qui sont pas loin de s'en sortir. Quelques dizaines d'euros, t'as l'autre, ça peut faire une différence. D'ailleurs, quand on retire très peu, même une petite somme, je passe à, il y a quelques années, on avait baissé les APL de 7 euros. Pour certaines personnes, 7 euros
les aides pour
le
logement,
c'est vraiment un peu tout. Ça les sortira pas entièrement de la pauvreté. D'accord, mais ça les fera peut-être vivre mieux. Il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? T'as l'idéal? Oui, on veut qu'il n'y ait plus de pauvreté, tu te loues. C'est aussi pas mal de se fixer comme objectif qu'on veut que les chats aient une vie moins difficile.
Christophe Robert? Oui, je partage totalement cette analyse, parce que ce que disait Julien Damon sur les cantines scolaires, qui s'est avéré vraiment vrai, et j'allais dire effrayant, c'est quand même que quelques euros, ça change. Et que, je voudrais ajouter, c'est qu'on regarde, Je me limite au RSA, parce que le minimum vieillesse, comme l'évoquait Julien Damon tout à l'heure, est à un niveau est plus élevé, 900 euros. Mais je parlais bien du RSA. Mais ce RSA, il a décroché par rapport au SMIC, je le redis. Ensuite, on a eu des coupes sur les APL destinées aux ménages. C'est-à-dire que soit il y a eu des coupes, soit elles n'ont pas été indexées à la hauteur, soit on a supprimé, par exemple, l'APL accession à la propriété, qui permettait d'aider, par exemple, pour faire des travaux dans les ménages en grande difficulté. Donc, on a en fait une situation où le RSA a décroché, on a des baisses d'aides destinées aux personnes, et qu'est-ce qu'on voit? Ben nous, on a dû distribuer plusieurs millions d'euros de tickets services pour que les gens puissent manger pendant la crise. Donc, et quand ces personnes recevaient ces tickets services de l'ordre de 10 euros, mais c'était très important pour eux. C'était très important. Donc, on peut pas dire d'un côté, finalement, 100 euros, ça changerait pas grand-chose, et puis de l'autre, constater que ils sont dans les files de distribution alimentaire, et ils sont très contents le jour où, même s'il y a un peu de honte, ou s'ils avaient jamais pensé y aller. Voilà. Donc, je crois qu'il y a ça. Et donc, derrière aussi, il y a une logique de... un peu idéologique aussi, hein, avec les pouvoirs publics dans la relation que nous avons sur ce sujet, parce que je reviens sur cet exemple de la taxe d'habitation, c'est-à-dire que moi, franchement, hein, je fais pas de la politique partisane, je dis simplement, tout d'un coup, on dit, bon, on va supprimer la taxe d'habitation, ça coûte 8 milliards d'euros pour les 20% les plus riches qui n'ont pas demandé de la supprimer. Mais c'est énorme, financièrement parlant. Donc ça veut dire que, je prends juste cet exemple pour dire, on pourrait réfléchir aussi autrement, par rapport à la main tendue, le filet de sécurité. Et je crois qu'il est vraiment important de, et c'est ce que vous avez fait, de regarder concrètement comment ça passe dans les budgets. Et il y a un élément quand même que je voudrais ajouter sur ce sujet, c'est que l'augmentation considérable du coût du logement dans les années 2000, hein, 2000-2010, doublement des prix de l'immobilier en moyenne en France, parfois ça triple, ça quadruple sur certaines métropoles, augmentation de 50% des loyers et explosion des charges beaucoup plus élevées encore. Ben, c'est les dépenses incompressibles. C'est-à-dire que même des gens qui ont des ressources à 1200, 1400 euros, en fait, une fois qu'ils vont avoir dépensé 50% de leur budget pour se loger, par exemple dans les métropoles, eh bien, en fait, il leur reste plus grand-chose. Donc ils vont s'éloigner des centres-villes, ou alors ils vont s'entasser dans des logements trop petits, ou alors ils vont accepter des logements indignes. On l'a vu, tristement, avec Marseille,
la catastrophe d'Aubagne, mais en fait qui a dévoilé le fait qu'il y avait des dizaines de milliers de logements dans lesquels se rabattaient des personnes, parfois même sous la coupe de marchands de sommeil, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et là, il faut qu'on rentre dans le détail de ce que c'est, au-delà du monétaire, de se loger, de se soigner. Et on pourrait même penser à la question de la culture. Bref, donc c'est toute cette réalité-là qu'il faut regarder à l'aune des budgets des ménages et de comment ils peuvent ou pas s'en sortir. Et ça, je crois que ce serait vraiment un débat de société intéressant.
Chère dame, on arrive au bout, il nous reste très peu de temps, mais peut-être voulez-vous répondre à ce que vient de dire Christophe Robert. Finalement, la question qui se pose aussi, et on l'a vu dans les politiques qui sont mises en place depuis 2018, depuis un certain temps, c'est aussi la question de la responsabilisation, la volonté de toujours systématiquement, en échange de l'argent qu'on débloque pour la pauvreté et pour les pauvres, les responsabiliser. Est-ce que ça, par exemple, selon vous, c'est nécessaire, ou est-ce que ça doit être sans contrepartie l'aide qu'on apporte à la pauvreté et aux plus pauvres?
En une phrase, je pense qu'il faut des contreparties, notamment pour ceux que l'on considère d'abord comme des chômeurs. Pour le RSA, c'est le cas. Bien sûr, personne n'imagine qu'il faut des contreparties pour bénéficier d'allocations aux adultes handicapés ou pour le minimum vieillesse. Mais ce que je tenais à dire, qui me semble plus original, c'est que dans la période, on peut chercher à être innovant. Par exemple, moi, je plaide pour que, à la différence de faire le RSA pour les moins de 25 ans, même si je ne suis pas forcément contre, on peut imaginer des prêts pour les jeunes et tous les jeunes. Alors des prêts, je vois les cheveux se dresser sur la tête, mais ce que l'on a fait pendant cette période du confinement et de la suite du confinement, c'est qu'on a fait des prêts garantis par l'État pour des centaines de milliards d'euros pour les entreprises. Moi, je ne pense pas qu'il faille des centaines de milliards d'euros pour tous les jeunes, mais on pourrait faire des prêts garantis pour l'État. Si, à 18 ans, vous avez la possibilité d'avoir 50 000 euros, ce qui est une somme absolument considérable, et si vous faites 7 ans de RSA, ça ne fera pas cela, qui sont garantis par l'État, c'est-à-dire que si vous ne pouvez jamais les rembourser, c'est l'État qui le fera à votre place, vous changez les perspectives des gens. C'est un sujet très important, et je termine là-dessus, c'est que si vous augmentez les minima sociaux, ça augmente un peu ce qu'il y a dans l'assiette. Si vous faites pour les jeunes des dotations en capital de ce type, ça change des perspectives dans la vie. Je crois que c'est ça aussi la lutte contre la pauvreté, c'est changer les perspectives dans la vie et pas seulement, même si c'est nécessaire, améliorer le quotidien.
Une autre forme de dotation en capital universel, ce serait le revenu universel, Denis Colombi, vous l'évoquez dans votre livre.
Oui, alors je l'évoque essentiellement pour défendre la proposition à soi, parce que c'est pas mon rôle. Moi, je l'évoque pour qu'on mette ça, une politique qui, par son caractère universel, nous fait réfléchir à ce que ce serait un mode sa pauvreté, un mode où il n'y aurait pas de pauvreté. C'est faisable, en fait, à terme de redistribution à l'échelle d'un pays comme la France. On peut éradiquer la pauvreté. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a des raisons politiques aussi à ce qui est de la pauvreté. Et là, il y a des questions embêtantes qui doivent être posées. Lorsqu'on évoque le cas du RSA, une réaction tout rate, c'est de dire, pas du RSA, pardon, du revenu universel, une réaction tout rate, c'est de dire, bon, d'accord, on fait revenu universel, mais alors qui ramassera les poubelles? Effectivement, si on n'a pas des personnes qui sont contraintes par la pauvreté ou la menace de la pauvreté de se tourner vers des emplois difficiles, être si chers physiquement, qui sont en plus dévalorisés, qui sont mal vus, qui sont méprisés, etc., en fait, soit on devra le faire soi-même, soit on devra payer les charges au reste demain. Et donc, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut réorganiser toute la société. C'est possible, mais la plus grosse résistance à ça, elle est politique.
Merci d'avoir dit éradiquer la pauvreté, c'est possible. Ça met quand même, malgré tout, un peu d'espoir dans cette émission. Merci à vous Christophe Robert, Julien Damon, Denis Colombi d'avoir participé à ce temps du débat du samedi. Denis Colombi, je rappelle, Où va l'argent des pauvres? C'était publié chez Payot. On mettra aussi toutes les références des autres ouvrages de nos invités sur la page du temps du débat du samedi. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar, à la prise de son Philippe Mercher. Merci à Sam Boutata pour sa collaboration. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question: antiracisme, y a-t-il une question blanche, avec Lilian Thuram, Emmanuel de Bonneau, qui est historien spécialiste d'antiracisme, et Myrna Safi, sociologue. Mais avant cela, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, L'Esprit public d'Émilie Aubry. Séparatisme, le choix des mots et d'une loi. France Covid, dans quel état en sortirons-nous? Et la trumpisation du monde est-elle contagieuse? Voilà pour les trois questions posées demain par Émilie Aubry. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent week-end à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.